Salutations, François Baruel.
Bonjour Luc, comment ça va?
Ça va très bien, merci et vous?
Très bien.
Bon, on parle d'un sujet sérieux, la lésion de la moelle épinière qui touche sûrement certains de nos auditeurs, nos auditrices. Peut-être, tiens, mettons la table en parlant des manifestations de cette lésion.
Les manifestations de cette lésion dépendent de la haute. Si c'est au niveau du dos, par exemple...
Ouais.
Ou au niveau du dos ou du cou, ce ne sera pas la même chose. Alors au niveau du dos, ça touche en fait tous les nerfs et tout le faisceau nerveux et tout le faisceau électrique, puisqu'en fait c'est pas autre chose, hein, tout le faisceau électrique qui va innerver les jambes et tout ce qui est en dessous de la lésion. Donc notamment, ça va innerver, ça va toucher les jambes, mais aussi la région de ce qu'on appelle la selle. La région, ça fait une anesthésie en selle, c'est-à-dire en fait... la zone que toucherait le corps lorsqu'il s'assied dans une selle de cheval.
Ok, ok.
Vous voyez là l'image un petit peu,
ouais.
Ce qui fait que ça correspond bien entendu à la zone fessière, mais aussi à la zone anale et à la zone génitale et tout ce qui est urinaire aussi. Donc ça provoque beaucoup de problèmes.
Est-ce qu'on appelle une paraplégie généralement?
Ça, c'est une paraplégie.
Ouais.
Et si c'est au niveau du cou, il s'agit dans ce cas-là des membres inférieurs, mais aussi des membres supérieurs, avec aussi le syndrome de la paralysie ou de l'insensibilité, le syndrome de la selle. Donc on a des paraplégies, des quadriplégies.
Oui, ou tétraplégies. Mais là,
c'est pareil.
Est-ce qu'on peut avoir, disons, une section amorcée sans toutefois qu'elle soit complète?
Tout à fait.
Oui,
tout à fait. Ça dépend en effet de la violence du choc. S'il n'y a pas de rupture complète, il peut y avoir certains faisceaux seulement qui sont touchés, mais ça, c'est la section, là, si c'est la partie postérieure, c'est peut-être la partie motrice, bien entendu, c'est plus souvent ça d'ailleurs, mais il peut y avoir une section antérieure, et à ce moment-là, c'est la partie sensible.
Ouais.
C'est la sensation et les douleurs, la chaleur, tout ça.
Souvent, lorsqu'on entend parler de moelle, on pense à une sorte de substance qui garde l'os en vie. Est-ce que la moelle épinière est une substance qui garde les os de la colonne vertébrale en vie ou c'est complètement autre chose?
Non, c'est complètement autre chose.
Ouais, hein?
La moelle épinière, en fait, c'est véritablement un faisceau électrique. Imaginez un faisceau électrique de voiture. Vous voyez un faisceau électrique de voiture avec les 50 fils, etc. Bah, c'est 1 million de fois plus gros, en fait. Ça n'a rien à voir. Ce sont en fait des câbles électriques qui partent du cerveau et qui s'en vont vers les extrémités. C'est véritablement un câblage électrique. C'est un travail d'électricien. Et la moelle, ça ne maintient pas les os en place. Mais parlons de la... Il ne faut pas confondre avec la moelle osseuse.
Ouais, c'est ça.
Elle ne maintient pas les os en place, mais par contre, fabrique les globules rouges et les globules blancs.
Ouais.
Ça, c'est autre chose. Mais ça, ce sont des os longs qui font ça, c'est-à-dire en fait le fémur, l'humérus, le sternum aussi contient de la moelle osseuse qui fabrique des globules. Mais la moelle épinière, elle est dans la vertèbre, dans les vertèbres qui sont posées les unes les autres. Ça fait un tunnel qui protège tout ce câblage électrique.
Bon, maintenant,
c'est totalement différent.
Une fois qu'il y a lésion, quelles sont les solutions, que ce soit chirurgie ou autre?
Alors la chirurgie, le problème... Il y a un gros problème, en fait, quand on parle de réparation, c'est notamment la chirurgie, c'est qu'en fait, quand il y a une rupture, une section, ou même une mini-section de la moelle, il y a une cicatrisation avec apparition d'une espèce de masse fibreuse qui empêche les nerfs de repousser au bon endroit. Donc ça, on a beau retirer cette masse fibreuse, c'est-à-dire cette lame fibreuse même, on pourrait dire. C'est comme une feuille de plastique entre les deux morceaux qui ont été coupés, quoi. Donc c'est infranchissable. Même si on retire ça après, on a beau refermer, on a beau remettre en place, de toute façon, on n'arrivera pas à... D'abord, ça ne repousse pas.
Ok, c'est vrai.
Et ensuite, on n'arrive pas à retrouver les nerfs qui partent du cerveau, n'arrive pas à retrouver les bons endroits des nerfs qui continuent vers les membres.
Donc il n'y a pas de chirurgie possible.
La vraie chirurgie possible, non. On a essayé même de faire des greffes. On a essayé de mettre des morceaux de nerfs. On a essayé de mettre des... Ça ne marche vraiment pas bien. Parce que de toute façon, alors, se refait une cicatrice avec cette espèce de masse qui empêche justement les nerfs de repousser et de repartir vers les extrémités.
Et je sais pas, moi je parle de médicaments, peut-être d'une sorte de rayon ou de substance chimique. Est-ce qu'on est à travailler sur des possibilités?
Absolument,
Ah, OK.
tout à fait raison. En fait, il y a des choses, il y a des. On a travaillé justement sur le fait, qu'est-ce qui fait qu'il y a une cicatrice? Alors, on s'est aperçu qu'en fait, il y a des protéines qui provoquent cette fabrication de cicatrices. Donc, on a cherché des anticorps anti-protéines qui fabriquent cette. Oui, on a essayé d'inhiber en fait les produits qui font qu'il y a une cicatrice. Soit ce sont des anticorps, soit ce sont des produits chimiques, des médicaments qui peuvent supprimer ces éléments-là. Ou bien alors, on essaye simplement de bloquer les d'autres protéines. Alors, soit on essaye de faire des anticorps, de fabriquer des anticorps contre ces protéines, soit on utilise d'autres protéines qui, elles, stimulent la repousse.
Mais
Mais
c'est quand même
ça.
particulier
C'est très particulier.
et paradoxal. On veut que ça cicatrise sans provoquer de cicatrice.
C'est ça.
C'est...
On veut que ça cicatrise, mais dans le bon sens.
Ouais.
La bonne cicatrisation, c'est en fait que les cellules reviennent congruentes, un petit peu comme un puzzle qui se referait tout seul. Hein? C'est à peu près ça. Même quand on se coupe la peau, ça revient à ça finalement. Hein?
Ouais.
C'est un puzzle qui se reforme et puis on ne voit plus rien. On voudrait que ce soit ça au niveau de la colonne vertébrale. Malheureusement, il y a des éléments qui empêchent ça. Ce sont des facteurs inhibiteurs de cette cicatrisation, de cette repousse des axones, et ce sont des facteurs qui provoquent cette cicatrisation. Donc c'est ça, contre ça qu'on essaye de travailler actuellement, et ça a l'air de. On obtient quelques produits, on a obtenu quelques effets positifs chez le rat, mais ce n'est pas encore formidable. Et surtout, pour arriver à le mettre, à l'utiliser chez l'humain, là, c'est très long. Parce qu'en fait, c'est très, très compliqué. C'est vraiment trop compliqué pour pouvoir le mettre en place
Ouais.
chez l'humain. Alors, on a d'autres possibilités. C'est justement stimuler et guider la repousse de l'axone. Là, on a des molécules qui sont capables de le faire.
Donc,
Mais là encore, c'est très, très, très. Ce sont des microcentimètres. Hein.
ouais. Et
Voilà,
je
c'est pas
présume,
encore
bon,
plus long.
c'est ben, à la fois, c'est très coûteux, mais celui ou celle qui va trouver la solution va rembourser ses dépenses assez rapidement, là, parce qu'il y aura toujours malheureusement des accidents.
Bien sûr, mais
Ouais.
il y a une autre chose qui marche actuellement. Il y a une chose qui marche peut-être,
En
justement
terminant.
en terminant. C'est la greffe de cellules embryonnaires et principalement la greffe de cellules du bulbe olfactif.
OK.
Le bulbe olfactif qui permet de respirer, de sentir les odeurs, a une particularité spécifique, c'est qu'il peut repousser. Et il peut repousser. Et ces cellules sont des cellules qui sont quasiment embryonnaires. C'est-à-dire qu'on peut faire des injections de cellules du bulbe olfactif à l'endroit de la rupture, avant qu'il y ait une cicatrisation. Et on a, chez les rats toujours, on a des repousses.
Donc, elles
Et on
peuvent.
a des récup Mais oui, et on a des récupérations motrices et sensitives.
Et donc, on n'est pas obligé d'injecter ces cellules-là uniquement dans les sinus ou dans l'appareil olfactif. Là, on peut s'en servir.
Ah, mais ce sont les cellules qu'on pareil olfactif, et on les injecte dans la colonne vertébrale.
Ouais, intéressant, vraiment intéressant.
Et
Un
ça.
jour, il va falloir parler des rats et pourquoi on utilise les rats autant pour les recherches, mais ça sera pour une autre fois. Merci beaucoup, François Baruel.
Mais je vous en prie, au revoir.